Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
On est jeudi 16 janvier 2025 et c'est l'heure de votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Chers téléspectateurs, chers auditeurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Comme vous le savez, le Mali a célébré la Journée nationale de la souveraineté retrouvée pour la troisième fois le mardi 14 janvier dernier. Pour rappel, cette journée vise à magnifier, selon les autorités de la transition, le choix légitime conformément aux recommandations des Assises nationales de la Refondation de mener des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections et ce, afin d'asseoir une stabilité durable. Au cours de cette émission, nous allons parler de trois volets, politique, sécurité et développement. Les lignes ont-elles bougé par rapport à ces trois points? Pour en parler, nous avons trois invités, Boulan Barrow du parti SNID, Lamine Diallo du parti CODEM, Cheikh Mouar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. Je suis Mariam Meiga. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question sera donc tour de table avant de rentrer dans nos trois volets dont nous allons parler au cours de cette émission. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis l'instauration de cette journée? Question tour de table. Je commencerai par M. Soumano.
Merci bien, madame. Donc, déjà, je vous remercie pour l'invitation et je salue encore une fois la célébration de cette journée de souveraineté retrouvée, déjà, qui va davantage affirmer le Mali au niveau tant national, régional et international. Déjà, je souris un peu parce que je suis le nom politique, le seul nom politique parmi les trois autres débatteurs.
Effectivement.
Voilà, déjà, bien, ça permet d'équilibrer. Et alors, c'est que j'ai perçu de cela il y a trois ans. Peut-être cela échappe aux uns aux autres, c'est le fait d'avoir rejeté, j'allais dire, l'arbitraire et l'injustice. Vous savez, quand vous faites face à une organisation qui a pratiquement 50 ans d'existence, qui vous inflige des sanctions. Généralement, les gens ne se posent pas la question de savoir est-ce que les sanctions infligées sont-elles légales et sont-elles légitimes. Et à l'évidence, on s'est tous rendu compte que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, je faisais partie des premières personnes qui ont dénoncé l'illégalité de la sanction en disant que c'était aucunement prévu dans les textes. Et malheureusement, la CEDAW n'avait pas compris, a encore refait la même chose au Niger. Et ça, je pense que ça a d'ailleurs même expliqué plus tard la décision de nos trois autorités de se retirer de la CEDAW. Maintenant, pour revenir au cas de la souveraineté retrouvée, pour moi, il faut dire bravo au peuple malien qui est sorti comme un seul homme ce jour-là, le 14 janvier 2022, pour dire non et soutenir les autorités. C'était ça, c'était vraiment le déclic. Et c'est là où, véritablement, je pense que l'appareil a été rendu de la bonne manière de dire, ben voilà, il faudrait que cette journée soit inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire et que cela puisse être raconté par nous, en tout cas la future génération. Donc c'est ce que moi je perçois par rapport à cette journée de souveraineté retrouvée.
Lamine Diallo du parti CODEM, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de l'institutionnalisation de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée?
Oh, je vous remercie. Je remercie Sidio Tamani pour l'opportunité. Je profite pour saluer mes co-débatteurs. Par rapport à cette institutionnalisation, moi je pense qu'on met les charrues avant les bœufs. Parce que la notion de souveraineté, je ne sais pas quel contenu on donne à cette notion ici au Mali, parce que ça a des connotations nationales, bien sûr, et connotations internationales. La souveraineté veut dire tout simplement pour un État d'exercer son autorité sur l'étendue du territoire, sa population. Ça, c'est sur le plan interne. Mais sur le plan interne, mais également sur le plan externe, ça consigne à être indépendant des ordres sur le plan international. Est-ce que tel est le cas pour notre pays actuellement? J'ai dit non. Parce que dans un premier temps, l'État ne parvient pas à exercer sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Aussi, est-ce que l'État parvient à exercer son autorité sur toute la population, c'est encore non, parce qu'il y a des pauvres gens qui ne se reconnaissent pas toujours dans tout ce que l'État est en train de faire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est depuis belle lurette. Et je ne dis pas que c'est la faute à la transition. La transition a trouvé cette situation-là. Maintenant, sur le plan international, est-ce que notre pays parvient à être indépendant des ordres? Je ne pense pas, parce qu'on dénonce d'un côté et on se jette dans les bras de l'autre côté. Ça, c'est un fait qui est là. Mais tout ce que moi, je peux dire, c'est que la souveraineté, c'est... En général, la souveraineté, on l'entend dans les pays totalitaires. Chaque fois que la notion revient et récurremment, ça dit que c'est des pays qui sont en difficulté et c'est les autorités qui sont en général besoin d'affirmer leur autorité sur la population. Sinon, on sait que la gestion des pays, c'est des rapports de force. La souveraineté n'a pas de sens si l'État n'a pas l'autonomie nécessaire de pouvoir s'imposer dans le Conseil des Nations. Vous savez, dans le contexte de la mondialisation, la souveraineté a peu de sens. La souveraineté a peu de sens. Il faut certes avoir pour un État, défendre ses convictions. Défendre ses convictions, mais ce n'est pas en instaurant une journée qu'on peut parvenir à s'imposer sur le plan interne, bien sûr, et aussi sur le plan international.
Voilà, je pense comme l'a dit tout à l'heure M. Soumano, c'est également la volonté du peuple. On se souvient que le 14 janvier 2022, c'est le peuple malien qui est sorti. Des milliers de Maliens sont sortis pour dire non aux sanctions de l'IOMOA et de la CEDEAO également.
Oui, non aux sanctions, nous l'avons tous dit. Hein. Non aux sanctions, nous l'avons tous dit. Mais est-ce que, vous savez, le peuple.
À vous comprendre cette sortie était légitime, mais pas institutionnalisée.
Vous savez, on est combien de millions de Maliens? On est combien de millions de Maliens? Combien étaient ces jours-là sortis sur le boulevard? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est 20%? Personne n'a une idée de ça. On n'a pas de statistiques, mais tout le monde pense qu'on a le peuple avec soi. Quand on parvient à faire sortir de la masse, on pense qu'on a le peuple avec soi. Vous savez, la souveraineté, normalement dans une démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Mais est-ce qu'actuellement, c'est le peuple qui est souverain?
Alors, non, nous allons
parce que le peuple est souverain à travers ses représentants légitimes qui sont élus. Maintenant...
Alors, la question politique, nous allons l'aborder au cours de cette émission sans... Une question tour de table, je me tourne vers Boulan Barreau. Il l'a dit, l'institutionnalisation de cette journée, il ne voit pas d'importance par rapport à ça. Et selon vous, est-ce que cette journée a eu l'effet escompté?
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je pense que pour aborder cette question, il va falloir préciser ce qu'est la souveraineté.
Allez-y donc.
Et comprendre davantage. Pourquoi on parle ici-là de souveraineté retrouvée? Ça veut dire que quelque part, ça a été perdu à un certain moment. Mais on ne peut pas aussi débattre sur cette question sans pourtant situer les échanges dans un contexte socio-historique et politique. Cette journée n'est pas venue d'elle-même comme ça. Il y a eu un contexte, il faut préciser la journée dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? On parle des sanctions de la CEDEAO. Ça fait partie des contextes. Mais avant les sanctions de la CEDEAO, il y a eu des situations politiques qui ont amené la CEDEAO à prendre des sanctions contre nous. D'aucuns pensent que c'est à cause du coup d'État que la CEDEAO a pris les sanctions contre nous. Non. Le 14 janvier 2022 est intervenu. La sanction de la CEDEAO est prise... le 9 janvier 2022, alors que le coup d'État, ce qu'on appelle le coup d'État, s'est opéré en 2020, en août 2020, donc une année plus tard. Cela est extrêmement important. Donc, les sanctions n'ont rien à voir avec ce qu'on a voulu appeler coup d'État. N'ont rien à voir avec ça. Il y avait une démarche politique qui était en cours à partir de la transition rectifiée. Notamment les assises nationales de la Réfondation. À la sortie des assises nationales de la Réfondation, la communauté internationale nous attendait à proposer un chronogramme pour la suite la transition. Et je pense que les assises ont été bouclées le 30 décembre 2021. Et le 31 décembre 2021, toujours, il y a eu une mission auprès de certains chefs d'État de la CEDEAO pour les présenter les recommandations des assises nationales de la refondation. Et c'est suite à ces recommandations, la CEDEAO s'est précipitée à convoquer une réunion extraordinaire, un sommet extraordinaire, pour se pencher sur la situation du Mali. À notre grande surprise, à la fin de ce sommet extraordinaire, il y a eu parallèlement, en marge du sommet de la CEDEAO, il y avait l'UMO aussi qui était en sommet. Et la sanction d'abord est venue de la part de l'UMO. L'UMO s'est réunie au Ghana pendant que le Ghana ne faisait pas partie de l'UMO. Et le même jour, la CEDEAO aussi a infligé ses sanctions. Donc on a été frappé par
deux sanctions
le même jour. Mais cela ne nous a pas surpris. Parce qu'il y avait un président qui avait annoncé déjà qu'il a instruit à certains présidents de la CEDEAO de prendre des sanctions contre le Mali. Un président qui n'est pas de la communauté, qui n'est même pas de l'Afrique, mais un président en dehors même de l'Afrique qui a instruit cela. Effectivement, la sanction est tombée les nerfs. Maintenant, face à ça, il fallait mobiliser. Le peuple n'est pas sorti de lui-même. Il y a eu un appel qui a été lancé par les autorités d'alors. Maintenant, la jonction a été faite entre les autorités d'alors et les forces vives, y compris les M5 RFP et tout ce qui s'en suivent, pour fixer la date du vendredi, sortir massivement pour dire non aux différentes sanctions qui ont été infligées contre le peuple malien. Je suis heureux d'entendre qu'au moins on comprend que la souveraineté appartient au peuple. C'est au seul peuple qui manifeste sa volonté souveraine. La souveraineté n'appartient pas aux autorités. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple a plusieurs manières de manifester sa souveraineté, soit sous la forme électorale, soit sous la forme révolutionnaire. Cette forme révolutionnaire, c'est ce que nous avons constaté le 14 janvier 2022. Et l'appel a été lancé, les gens ont répondu. Maintenant, officiellement, le Conseil des ministres a estimé qu'il y avait, pas seulement sur le boulevard, mais c'était un peu partout au Mali, même dans la diaspora, qu'on a estimé ça à 4 millions et quelques. Ça, c'est un document officiel du Conseil des ministres.
Alors, Boulan Balo, vous allez garder la parole. Juste vous dire qu'on a déjà fait plus de 10 minutes sans pour autant rentrer dans le vif de notre émission. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous allons parler de 3 volets. Commençons donc à présent par le volet politique. Au-delà de célébrer la mobilisation du Mali contre des Maliens, contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA, est-ce que la classe politique accompagne ces idées de célébration de cette journée-là?
Mais fortement, parce que c'est un moment fort qu'il faut magnifier. Ça rentre désormais dans l'histoire contemporaine politique du Mali. Personne ne peut le nier. Parce que c'est inédit. La sanction, non seulement les sanctions étaient inédites, la sortie aussi, la mobilisation du 14 janvier aussi, était inédite. Personne ne peut le nier. Ça fait partie désormais de l'histoire politique du Mali. Personne ne peut le nier. Maintenant, les gens doivent chercher à comprendre. On a frôlé la même situation en 2012. Il faudrait qu'il y ait souvent des rappels politiques pour que les gens puissent comprendre. En 2012, il y a eu la décentralisation du pouvoir. Mais le président n'était pas arrêté. Le gouvernement n'était pas défait. Ce n'est pas cette même CEDEAO qui est venue proposer la démission d'un président démocratiquement élu. C'était la solution de la CEDEAO, exigeant à ATT de démissionner.
Merci beaucoup, Boulan. Le temps de faire réagir l'autre politique au bout de la table, Lamine Diallo. Pour vous, pourquoi il ne faudrait pas célébrer cette journée de souveraineté nationale politique?
Vous savez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez, on a toujours été dans la célébration. Combien de journées célébrées-je? Combien de journées on célèbre ici? Journée de lutte contre le temps, journée de temps. Qu'est-ce que ça apporte? Il faudrait qu'on raisonne désormais en termes de gains, en termes d'acquis de ces journées. En célébrant, en sortant massivement, qu'est-ce que ça apporte au peuple malien? Qu'est-ce que ça apporte au Mali? Une satisfaction à la limite. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça n'apporte rien aux populations au quotidien du Mali. Qu'est-ce que ça apporte? La preuve. La première célébration, les gens sont de toute façon. Tu sais, quand tu. Une façon de communiquer, le populisme aidant, on a pu mettre dans la tête des Maliens qu'il fallait célébrer cette journée pour je ne sais quoi, changer la vie du Mali. La preuve, l'engouement a baissé. Cette année, comment on a célébré cette année? On est allé où? Le peuple est où? Le peuple a changé d'avis peut-être? Pourquoi pas le boulevard? On a célébré comment? Des leçons modèles à l'école? Palais des sports? On était au boulevard. Parce qu'il y avait une cause à défendre. Et la cause, c'était pour instaurer l'autorité des tenants du pouvoir actuel. La souveraineté n'a. Célébration de cette journée n'a que ça comme objectif pour nous. Et vous savez, en quoi cette souveraineté peut changer, peut amener de l'électricité au Mali? En quoi cette célébration peut amener la sécurité au Mali? C'est-à-dire, il faut changer de paradigme et aller vers le concret.
Alors, le temps de donner la parole au seul nom politique sur le plateau, Monsieur Soumano, derrière l'idée de célébration de cette journée de souveraineté retrouvée, on parle également d'organiser des élections. Est-ce que les prémices de cette élection à ce stade-là sont visibles?
Moi, je dirais absolument oui, parce que déjà, il faut rappeler que dans le budget de cette année, il y a 81 milliards déjà qui sont prévus. Et ensuite, il y a moi, j'ai participé à la rentrée solennelle des cours de tribunaux il y a le 26 décembre, où le thème, c'était justement le contentieux électoral. Où le président, lors de son discours, avait instruit justement au gouvernement, et en tout cas tous les acteurs, de pouvoir mobiliser les moyens, aussi bien financiers et matériels, pour pouvoir aller vers une élection libre et transparente. Donc moi, je pense que la volonté d'organiser les élections, de mon point de vue, ne fait l'ombre d'aucun doute. Et je prends pour baromètre les deux éléments que je viens d'indiquer. Donc le fait déjà qu'il y a un budget prévu pour ce faire dans le budget national de cette année, dans le budget de cette année, mais également dans le passage du discours du président de la République lors de la rentrée solennelle des cours de tribunaux au niveau de la Cour suprême. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire par rapport à cette idée de pouvoir institutionnaliser la journée de la souveraineté retrouvée, il faut qu'on note déjà que, de façon conceptuelle, la souveraineté en tant que telle ne se perd pas. Pourquoi? Parce que c'est le droit de légation actif et passif. Ça veut dire quoi? Le fait de pouvoir envoyer ses ambassadeurs à l'étranger, mais également de recevoir des ambassadeurs d'autres. Et donc moi, je ne pense pas à un moment donné que le Mali ait perdu ça de 1960. À chaque fois, on envoie nos ambassadeurs et nos ambassadeurs ont été accrédités, que ce soit en régime démocratique ou exceptionnel, ça a été toujours le cas. Également, le fait de pouvoir définir nous-mêmes notre politique économique, notre politique d'éducation, de santé, etc., des lois sont votées tous les jours. Donc à ce niveau, on est tous d'accord qu'il n'y a pas en tant que tel de perte de souveraineté. Mais cependant, là où il faut faire une bonne analyse pour comprendre la notion qui a été choisie de dire la souveraineté retrouvée, c'est parce que dans notre constitution, il est indiqué quelque part que pour la réalisation de l'unité africaine, le Mali serait amené à renoncer à une partie de sa souveraineté. Et en l'occurrence, je pense, si vous regardez toutes les compétences qui avaient été dévolues justement à la CEDEAO, qui imposaient au Mali, par exemple, un calendrier électoral, etc. Donc on a vu maintenant le calendrier électoral politique qui était imposé par la CEDEAO, c'était le calendrier de la CEDEAO, mais qui ne prenait pas en compte véritablement les réalités du Mali. Parce que pour moi, les autorités avaient pensé qu'il fallait aller vers la sécurisation. Ça, c'est vraiment une priorité que les autorités maliennes ont sorti et qui n'était pas en phase avec la CEDEAO. Donc le fait maintenant de se retirer de la CEDEAO peut expliquer en partie l'explication de dire souveraineté retrouvée, parce que quand on renonce à une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine, sachant que la CEDEAO, le Mali, est dedans depuis 50 ans, et le fait que le Mali se retire, et d'ailleurs, vous avez vu que ce retrait a fait tellement suscité beaucoup de bruit autour du fait que les gens ne voulaient pas que le Mali quitte, notamment la CEDEAO elle-même, qui a même joué sur des stratagèmes en disant on va jouer sur une prorogation de 6 mois, où les autorités maliennes ont été claires. Et d'ailleurs, le président Assimi a été clair dans son discours, la sortie est irréversible, on va sortir. Et donc, le fait qu'on ait, on ait pris cette décision, parce qu'on était lié par une convention qui avait été signée en toute autonomie, en toute liberté, mais les autorités aujourd'hui ont décidé de revenir sur cette décision prise il y a 50 ans. Et moi, je peux mettre le fait de dire que souveraineté retour dans ce cadre. Et pour finir, en tant que diplomate et tout, vous savez, c'est un symbole, en fait. Diplomatiquement, politiquement, c'est important de pouvoir marquer les esprits. Et on ne voit pas, ce n'est pas, il ne faut pas voir véritablement lier les conséquences par rapport à l'amélioration sur le quotidien. Non, pour moi, c'est politique. Aujourd'hui, quand on parle du 14 janvier, on va dire, première des choses qui vient à l'esprit, tout le Mali était d'accord pour dire non à ces sanctions illégitimes. Maintenant, le jour où ça arrivait, évidemment, il y avait l'euphorie, on sort. Mais on ne peut pas toujours pouvoir espérer qu'il y aura toujours ces mêmes masses. Parce que, comme vous l'avez dit, les gens n'ont pas le même emploi du temps, etc. Mais là où je suis d'accord, c'est que je salue d'ailleurs le format de cette célébration parce qu'on l'a mis dans le cadre d'une leçon modèle. Et je l'ai dit en début de mon propos en disant qu'il faudrait que la future génération puisse dire, à un moment donné, nos ancêtres ont pu quand même oser dire, faire quelque chose qui n'était pas possible par le passé. Et donc, ça rime aussi avec le fait que l'année 2025 soit l'année placée sous le sceau de la culture, des valeurs culturelles. Donc, de mon point de vue, je pense que le Mali va être un modèle. Et s'il n'y avait pas ce baromètre du 14 janvier, je pense qu'on allait très rapidement oublier cela. Et peut-être que même si on devait compter cela à nos petits-enfants, dans une cinquantaine d'années, peut-être il n'y a pas d'élément. Moi, je le mets sous ce coup-là, en fait.
Lamine, je viens vers toi. Il vient de le dire. Bon, la question électorale, je viens vers toi également par rapport à ça. Il a dit dans ses propos que le budget en question prenait le budget 2025. La prévision de prenait en compte l'organisation de ces élections-là. Et je sais que ce n'est pas une première. En 2024 également, c'était le cas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette volonté au moins des dirigeants actuels d'aller vers cette élection-là?
Vous savez, c'est vrai, il a dit, ça a été pris en compte dans le budget, ça a été déjà presque annoncé, mais ça reste des intentions. Ça reste des intentions quand on sait que beaucoup d'engagements avaient été pris avant et qui n'ont pas été respectés. On est en droit de douter, parce que surtout que ça vient après les réformes, même dans le chronogramme qu'ils ont élaboré, ça vient après les réformes. À quand la fin des réformes? Est-ce que c'est courant 2025? On ne sait pas. Bon, on ne peut qu'espérer que ce soit pour 2025 pour qu'on sorte rapidement de cette situation. Parce que, honnêtement, ça commence à peser. Ça commence à peser sur le quotidien des Maliens. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une transition. Il faut changer, il faut revenir à l'ordre constitutionnel qui est accepté, qui est reconnu par le monde entier. Il faut revenir dans le Conseil des Nations. Et c'est là forcément par les élections. Parce que la souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple ne peut exercer sa souveraineté que dans les urnes. Et ses choix seront forcément légitimes. Et les décisions seront forcément acceptées parce que c'est des choix légitimes du peuple. Maintenant, on est dans une situation d'exception qui commence à trop durer. Et on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne pour qu'on sorte de cette situation.
Boulambaro, qu'en est-il? Est-ce que le volet élection est vraiment visible dans cette célébration de Journée nationale de souveraineté retrouvée?
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas déplacer cette journée-là de son contexte. Je précise encore et je répète que nous avons perdu. Il ne faudrait pas ici que les gens confondent la notion de souveraineté à la notion d'indépendance. Un pays, un État indépendant, reconnu par la communauté internationale, peut envoyer ses ambassadeurs un peu partout. Ça, c'est un pays, ça, c'est un État qui est reconnu sur le plan international. La souveraineté, je le dis, je le répète, ça appartient au peuple. Il ne faudrait pas que les gens se détrompent. La notion des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ça qui explique les principes de la souveraineté. La reconnaissance d'un État vis-à-vis de ses pairs, c'est ça l'indépendance de l'État. Donc c'est un débat conceptuel. Moi, je reconnais. Dès lors que... Moi, j'ai parlé d'un processus de 2012. L'indépendance du Mali même est symbolisée par le départ du dernier soldat français sur le territoire malien. Ça, c'est le symbole qui s'annonce bientôt comme dans l'Alves le 20 janvier.
Le 20 janvier.
Ça symbolise l'indépendance. Mais l'indépendance a été déclarée. Le peuple a déclaré son indépendance le 22 septembre. Mais l'indépendance est symbolisée par le dernier départ du soldat français. Mais à la suite de la crise de 2012, nous avons été obligés de faire appel à ces mêmes soldats, à cette même communauté internationale. Mais les Mali étaient sous tutelle. Cela n'était pas caché à personne.
Alors, en venant à notre question.
Donc, la question, moi je suis dans la question, mais je n'accepte pas qu'on déplace cette. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont initié cette journée. Nous savons comment on l'a fait. Nous avons fait. Nous savons quel est l'esprit qui est derrière ça. C'est politique et ça ne peut pas déplacer de son contexte. Maintenant, cette journée n'a rien à voir avec la tenue ou non d'une question électorale. Que cela soit comprise. À l'époque, il fallait que le peuple sorte pour défendre les autorités à l'époque, pour faire face à la sanction. Maintenant, pourquoi aujourd'hui l'engouement? Parce qu'il n'y a plus de sanctions. S'il y avait la sanction, ça allait être le même engouement. Maintenant, il s'agit d'une question de mémoire. De mettre ça dans les mémoires et personne ne veut... Ce sont les autorités qui ont pris des décisions pour dire que c'est chômé et férié. Maintenant, c'est parce qu'un homme, un acteur majeur de cette journée n'est plus dans la gouvernance. Maintenant, on veut faire autrement. Dès à présent, nous constatons qu'on veut falsifier l'histoire contemporaine du Mali. Cela ne se passera pas pendant que nous sommes là. Donc, nous, on va garder la mémoire. Que cela soit très clair et comprise de tout le monde. Maintenant, les élections, ça, c'est notre débat, à mon avis. On a dit que le budget a fait cas, mais l'année dernière, le budget n'a pas pris en compte la tenue des élections. Aujourd'hui, le budget s'est inscrit dans le budget. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va mobiliser. Moi, je ne suis pas optimiste par rapport à la tenue, ça je l'ai dit clairement, par rapport à la volonté de ces autorités-là à tenir les élections. Voilà pourquoi j'ai dit bien que la souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple d'exprimer sa souveraineté d'une manière ou d'une autre. La forme électorale, le peuple a fortement besoin de ça. Il est temps qu'on mette en parenthèse, qu'on ferme la parenthèse de la transition, surtout qu'on a adopté une nouvelle loi constitutionnelle qui dit clairement qu'il faut appliquer. Et un président de transition ne peut pas appliquer la constitution qui est en vigueur. Parce que la constitution ne parle que le président de la République, qui est différent d'un président de transition. Voilà pourquoi je dis bien que cette journée n'appartient pas à personne, à quelqu'un. Ça appartient au peuple et ça va demeurer une propriété du peuple.
Alors, merci beaucoup, Boulan. Quittons à présent le volet politique pour parler de sécurité. Peut-on dire qu'on est souverain dans la conduite de nos opérations militaires? Je donnerai la parole à M. Soumano.
Merci bien, Mariam. Déjà, je voudrais rappeler à mon vis-à-vis.
Rapidement, oui. Il nous reste simplement un quart d'heure.
Je veux juste lui dire que la souveraineté diplomatiquement et sur le plan droit international, ça veut dire tout simplement qu'on ne reçoit d'ordre de personne. Ce n'est pas lié au fait que la différence entre indépendance, ce n'est pas juridique. C'est que quand on parle de souverain, cette souveraineté, elle est juridique partout. Et ça veut dire que vous ne devez pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. Et donc, à partir de cette réponse-là, je voudrais dire effectivement, aujourd'hui, on peut parler de cette souveraineté et sécuritaire. Pourquoi? Imaginez, si vous regardez ce qui se passait par le passé, à un moment donné, le Mali ne pouvait pas disposer de son espace aérien, se lever sans avoir des autorisations d'autrui, par exemple. Et ça, ce n'est plus le cas. Au contraire, c'est nous qui... On essaie d'exercer la plénitude de notre... de notre droit sur l'espace aérien. Et Assimi l'a dit, le président Assimi l'a dit lors de sa rencontre avec les forces vives, qu'il y avait un drone qui était venu. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans notre accord. Ça, c'est important. Deuxième des choses, quand on avait demandé à la MINUSMA à l'époque de partir, beaucoup de gens avaient dit ça n'allait pas pouvoir être, on allait regretter, etc. Aujourd'hui, ça n'a pas empêché l'armée de monter en force. Donc, de ce point de vue-là, je me dis que, en tout cas, pour moi, la souveraineté sécuritaire qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dépendant de qui que ce soit. Et moi, je pense que le Mali, on fait confiance à nos FAMA qui font un travail remarquable. L'armée continue à monter en puissance. Mais aussi, il faut noter que même si on monte en puissance, le fait qu'il y a souvent quelques attaques ici et là ne remet pas en cause justement le fait que l'armée, en tout cas d'aujourd'hui, n'est pas l'armée d'il y a quelques années. Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas d'équipement, il était difficile, il y a des opérations. Donc, véritablement, il y avait beaucoup de choses qu'on disait. Mais actuellement, on a vu que nous avons des femmes assez dévolues pour la cause du Mali, qui sont professionnelles, qui sont équipées et qui se battent au quotidien pour véritablement nous assurer cette sécurité-là.
Lamine Diallo, comme il vient de le dire, est-ce que l'armée d'hier est différente de celle d'aujourd'hui, surtout si on peut autrement dire qu'on est maître du terrain, qu'on attend l'aide de personnes pour agir?
Bon, vous savez, il a raison quand il dit que l'armée a véritablement évolué. L'équipement est là, la posture a changé, c'est vrai. On est plus attentif, on va vers l'ennemi, ça c'est très bien. Mais est-ce à dire qu'on peut parler de souveraineté sur le plan sécuritaire? Non. C'est vrai que l'aménagement n'est pas là, Barkhane n'est pas là. Mais vous savez, pour un pays pauvre, c'est très difficile d'être sécuritairement souverain, parce que on n'a pas le contrôle sur les armes. On est obligé d'aller se ravitailler dans les pays qui ont forcément qui vous imposent des choses forcément. Maintenant, on a aussi des partenaires qui sont là maintenant. On n'a pas l'aménagement, on n'a pas Barkhane. On n'a pas la CDAO, mais on a des partenaires qui sont là.
Mais est-ce que ces partenaires-là donnent des instructions dans la conduite des opérations?
Ces partenaires sont sur le terrain avec l'armée.
Mais est-ce que ces partenaires donnent des instructions?
Bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour parler ainsi, mais je sais que pour être souverain sur le plan sécuritaire, il faut avoir la même mise de bout en bout. Je ne parle pas d'achat d'armes, mais sur le terrain, quand il y a des instructeurs qui vous accompagnent sur le terrain, ça veut dire que la souveraineté reste problématique dans ce domaine. Et les résultats sur le terrain n'est pas forcément reluisant, parce que il y a toujours des poches de résistance. Il y a toujours, on ne peut même pas dire qu'il y a des zones où l'armée a pu amener la sécurité à 100%. Depuis le départ de IBK, c'est très difficile d'avoir des zones où, à part Kidal bien sûr, où l'administration est revenue, où les écoles ont commencé à 100%, où la sécurité est garantie. C'est très difficile en termes de statistiques même de voir des zones où, comme ça. On voit qu'au contraire, c'est Bamako qui est attaqué, c'est les environs de Bamako qui sont quotidiennement attaqués. Bon, pour le plan sécuritaire, c'est difficile, hein. Mais on le savait, parce que c'est une guerre asymétrique où on ne connaît pas forcément l'ennemi. Ça prend forcément du temps. C'est là où je dis toujours que les autorités ont commis l'erreur de dire aux gens qu'ils vont amener la sécurité avant les élections. Parce que quand on connaît la nature de la crise, on sait qu'amener la sécurité, ça peut prendre 20 ans, 10 ans, ça peut prendre 5 ans avant d'amener la sécurité. Et lier les élections à ça, c'est véritablement problématique. C'est pourquoi on est toujours sans élection, parce que leur promesse de sécuriser le pays tarde à se concrétiser. Et pour qui connaît le terrorisme, on sait que ce n'est pas forcément pour demain, malgré la volonté de l'armée de jouer pleinement son rôle de sécurisation du pays. Ça va être très difficile.
Vous comprendre, c'est un couteau à double tranchant. On est... De façon sécuritaire, ça va pas, c'est un couteau à double tranchant, c'est ça?
Oui, si aujourd'hui ça va, demain ça va pas, c'est la nature de la crise qui impose cela. Maintenant, il n'y a pas toujours autorité de clarifier cette position aussi.
Boula Baro, sécuritairement, est-ce que de façon militaire, nous sommes souverains dans la conduite de nos opérations?
Je suis à l'aise que lorsqu'on veut expliquer la notion de la souveraineté par rapport aux questions sécuritaires, on revient à reconnaître qu'on avait perdu cette souveraineté. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous avons notre autonomie opérationnelle sur le terrain. La conduite des opérations n'ont pas besoin de demander l'avis des X ou des Y. C'est le Mali qui a l'autonomie des opérations militaires sur le terrain. Pendant que, dans un récent passé, on était obligé soit de se rabattre sur l'aménagement, soit de se rabattre sur Barkhane, soit c'est les G5 Sahel, soit c'est Takuba, je ne sais quoi. Mais maintenant que nous avons dégagé tout ceci, à la suite des assises nationales de la refondation, à la suite de cette mobilisation du 14 janvier, qui a imprimé aux dirigeants la voie à suivre, c'est ce qui nous a amené de se débarrasser de toutes ces forces qui étaient un poids, qui étaient venus pour nous aider, mais qui ont fini par être les problèmes. Donc, voilà qu'aujourd'hui, que les gens comprennent que sur le plan sécuritaire, que nous sommes souverains, n'ont pas besoin de demander l'avis d'un pays tiers pour agir, n'ont pas besoin de nos besoins en termes d'équipement militaire. Nous l'assumons. On n'a pas besoin de partenaires pour ça. On ne nous donne pas, on paye. C'est une question de marché. Donc, je pense que si cela est compris, ça voudrait dire clairement qu'à un moment donné, on avait perdu cette souveraineté. Mais maintenant, nous l'avons récupérée. Maintenant, il s'agit maintenant d'asseoir une base solide de cette souveraineté tout en renvoyant la parole au peuple pour que le peuple puisse s'exprimer, désigner, choisir ses nouveaux dirigeants, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution en vigueur.
Boulan Barreau, vous gardez la parole. Le dernier volet, il nous reste 8 petites minutes pour clore cette émission qui est le développement. Est-ce qu'aujourd'hui encore sur le volet développement, on ne dépend pas encore de l'aide au développement?
Vous savez, pas forcément de l'aide, mais il ne faudrait pas que les gens comprennent lorsqu'on parle de souveraineté, d'indépendance, qu'il faut tourner le dos aux autres.
Ok.
Non. Les pays, c'est vrai, ils sont indépendants, mais nous sommes complémentaires. Aucun pays ne peut évoluer à vase clos. Donc la notion d'indépendance, de souveraineté, ne voudrait pas dire qu'on doit tourner le dos aux autres. Mais c'est la capacité à un État de refuser de se soumettre aux dictats. Sinon, les pays là sont des partenaires. Nous sommes des partenaires. Donc les questions, si vous voulez aussi détacher les questions politiques et les questions sécuritaires du développement, ça veut dire que moi, on a plus rien compris de la notion de développement. Le développement, c'est un tout. On ne peut pas traiter la sécurité à part et vouloir traiter le développement à part. On ne peut pas traiter la diplomatie à part et vouloir traiter les questions de développement à part. Le développement, c'est un tout. Donc, il faudrait que les gens aient quand même cette approche-là pour comprendre que lorsqu'on parle de développement, c'est sécurité, c'est tout. Mais le tout dans une organisation politique. Le tout dans une organisation politique. Voilà pourquoi la Constitution demeure le tableau de bord.
Est-ce que dans cette organisation politique, dans cette conception-là, on est souverain?
En matière de développement, non, on ne peut pas parler. Je sais que je vous ai dit, la souveraineté appartient au peuple. Moi, je ne vais pas me détacher de ça. Le peuple exprime sa volonté souveraine et donne une vision aux dirigeants. Et les dirigeants sont obligés d'emprunter ce chemin-là pour apporter le développement qui sera profitable pour la population. Il ne faudrait pas aussi que les gens confondent le peuple aussi de la population. Parce que le peuple, c'est la France, c'est la partie expressive de la population. Alors, mais si on parle de développement, il s'agit de l'ensemble de la population qui doit bénéficier. Je prends un exemple. Quand on va aux élections, il y a quelqu'un qui est élu sur la base des suffrages. Mais le peuple qui a voté pour ce dernier, mais lorsqu'il est investi, il n'appartient plus à ce peuple, il appartient désormais à la population. Parce que c'est le principe de la démocratie.
Monsieur Soumano, est-ce que sur le volet développement, on est souverain? Est-ce que ce développement est perceptible?
Déjà, pour répondre à la question, je vais vous renvoyer à l'application par nos autorités, une très belle application d'ailleurs du nouveau code minier. Vous voyez combien ça a pu faire générer comme ressource près de 500 milliards de francs CFA. Un code que le Mali s'est donné de façon libre, sans pression de qui que ce soit. Et suite à un audit, on a vu qu'il y avait beaucoup de déperdition de ressources, de perte de ressources, je veux dire. Mais avec ce nouveau code, aujourd'hui, nous avons recouvré près de 500 milliards et nous sommes en train encore de recouvrer. Ensuite, nos PME locales, par ailleurs, je suis le président du jeune patronat, je sais de quoi je parle, on a mis nos jeunes PME au cœur du développement parce qu'on oublie justement, avec le contenu local, des sociétés minières qui sont toutes étrangères, de sous-traiter avec des sociétés maliennes. Donc, ça fait une redistribution. Le projet de lithium, vous voyez, tous les chiffres qui ont été annoncés, cela voudrait dire que véritablement, nous avons encore cette souveraineté économique. Maintenant, il faut que les gens comprennent. Je dis, et je le répète, la souveraineté voudrait dire qu'il nous faudrait percevoir et recevoir d'ordre de personne. Personne ne peut venir décider à votre place. C'est ça, en fait, la quintessence. Maintenant, pour tout ce qui concerne le fait que ça appartient au peuple, ça, c'est de manière expressée politique, du point de vue politique, c'est le peuple se lève, se donne ses élus locaux, désigne les conseillers au niveau de l'Assemblée, maintenant au niveau du Sénat, désigne le président de la République, mais après, c'est eux qui vont exercer cette souveraineté au nom de l'État. Mais tout ce que l'État, en tant qu'entité juridique indépendante, là, ne reçoit d'ordre de personne, ni des autres États, encore moins des organisations internationales. Maintenant, un bémol qu'il faut noter. On est dans une confédération, qui est la confédération de l'AES. Et aujourd'hui, il a été clairement dit que la notion de développement sera gérée à l'échelle des trois pays. Alors, c'est bien pour moi, parce que ça veut dire qu'actuellement, le fait que le président Assimi soit le président de l'entité confédérale de l'AES peut véritablement voir au niveau des deux pays qui sont avec le Mali dans la confédération, le Niger pour tout ce qui concerne l'uranium, pour tout ce qui concerne le pétrole, Burkina également, la question qu'on peut harmoniser une politique pour que désormais la crise énergétique à laquelle le Mali est confronté, le Niger puisse être une solution à cela. Parce que le Niger, véritablement, est producteur de pétrole. Et d'ailleurs, vous allez voir, quand on prend la CEDEAO dont on se retire, sur le plan économique, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui n'achetaient pas leur fioles avec le Nigeria, qui est pourtant le premier producteur africain, mais allaient acheter leur fioles avec, par exemple, le Venezuela. Donc le Mali, l'AES, la Confédération, pourrait véritablement gérer cette question, cette erreur que d'autres ont eu à faire, mais que nous ne pourrons pas ne pas faire parce que nous sommes dans une confédération et qui prend en compte le volet développement. Je finirai par le dire, le développement également rime avec le développement des infrastructures. Donc avoir des routes, avoir des centres de santé, avoir des structures éducatives, etc. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il est à l'esprit que nous allons avoir notre banque de développement, une banque d'investissement. C'est vrai que la structure de laquelle l'organisation sous-régionale dont on se retire, qui est la CEDEAO, avait sa banque d'investissement qui s'appelle la BIDC et qui avait investi près de 300 milliards de points de projet dans les trois pays. Mais si nous avons notre banque d'investissement, ça nous permettra de prendre le relais. Donc moi, je pense que nous sommes en train d'affirmer notre souveraineté économique en termes de développement.
Lamine vient de le dire, la quintessence de ses propos, contrat minier, lithium qui est là, également la force des États de l'AIS. On peut dire véritablement que sur le volet développement, la souveraineté est retrouvée vraiment amorcée.
Amorcée, c'est difficile à dire, vous savez. Il a parlé de tout ça, c'est bien beau, hein. C'est des perspectives, c'est des faits qui sont là, qui sont salutaires, mais vous savez, le développement, c'est les services sociaux de base. C'est les services sociaux de base, c'est la population. Le développement ne se décrète pas encore une fois. Ça se ressent par la population.
Et aujourd'hui, est-ce que ce développement n'est pas ressenti par cette population?
Non, est-ce qu'on a l'électricité qui nous permet de faire fonctionner nos unités de production? Non. Est-ce qu'on a l'eau potable couramment? Non. Il y a beaucoup de choses qui manquent. En tant que même de la jeunesse du patronat, il essaie, beaucoup d'opérateurs économiques ont quitté le pays. Allez-y, allez à l'inspection du travail. Vous aurez une idée des entreprises qui ferment quotidiennement au Mali aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai été témoin de beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Lithium, c'est vrai. L'or, c'est vrai qu'il y a eu des réformes salutaires qui permettent de renflouer les caisses de l'État. Mais encore une fois, l'argent va où? La corruption est toujours là. Les rapports sont...
Alors, Lamine, le temps imparti pour cette émission est terminé.
Jusqu'à
rapidement, il faut qu'on puisse clôturer cette émission.
Jusqu'à présent, il reste beaucoup de choses à faire. On doit sortir des discours pour que la population puisse parler de développement. Il faut que la population puisse ressentir le développement. Et aujourd'hui, le panier de la ménagère est vide. Tout le monde crie.
Merci beaucoup. Et c'est sous vos propos que va prendre fin cette émission de Grand Dialogue qui parlait de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. On faisait focus sur trois volets, politique, sécurité et développement. Grand merci à nos invités, Boulan Barrow du parti SNID, Lamine Diallo du parti CODEM et Cheikh Omar Soumano, spécialiste en paix, gouvernance et sécurité. Je suis Mariam Maïga, à la régie son et vidéo. Il y avait Ibrahim Sanogo et Seydou Daou. Grand merci à vous pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.